l'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Deloume pour l'instant addicto. Nous poursuivons notre chemin sociologique avec Nicolas Palierne. Bonjour Nicolas Palierne.
Bonjour Sophie.
Donc aujourd'hui, le genre et le masculin. Après les femmes, où on a pu aborder la stigmatisation et la pathologisation excessive à l'égard du féminin et de l'alcool qui reste encore tabou. Et au niveau du masculin, je trouvais important de voir comment les hommes fonctionnent par rapport à l'alcool. Autant la femme est pathologisée, la femme est stigmatisée. Au niveau du masculin, on a pu déjà le dire dans les émissions précédentes, il y a une très très grande banalisation du masculin, et vous l'expliquez comment, vous, sociologue ?
Je pense justement que ça renvoie profondément au rapport de genre qui touche encore ces pratiques d'alcoolisation. Il y a beaucoup de paradoxes sur ces questions-là, mais il y en a un qui peut être assez fort, c'est que quand on pense justement le rapport des hommes et des femmes par rapport à l'alcool, on a beaucoup, d'emblée en tout cas, on pense beaucoup plus à un rapport problématique des femmes, alors que si on prend les choses un petit peu en moyenne, le groupe des femmes, elles ont un rapport beaucoup plus normal à l'alcool. C'est plutôt elles qui consomment beaucoup moins que les hommes et qu'il y a seulement une minorité de femmes qui vont surconsommer. Alors qu'à l'inverse, les hommes, on a l'impression que c'est un rapport normal, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux à consommer des quantités importantes. Et donc, on retrouve bien ce rapport de genre, ce rapport asymétrique dans le regard qui va être porté sur les consommations, où d'emblée, la consommation des femmes va être pensée comme un problème, alors qu'en réalité, globalement, elles boivent beaucoup moins que les hommes. Et donc, ça renvoie justement au phénomène de normalisation, de banalisation du consommation que les hommes, et surtout certains hommes, ont avec l'alcool.
On peut dire que c'est dans cette banalisation que la consommation d'alcool chez le masculin, il y a quelque chose un peu de dissimulé là-dedans. Ils sont quand même beaucoup plus nombreux quand on voit les chiffres de l'OFDT, l'Office français des toxicomanies, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus d'hommes qui vont se faire soigner. Vous avez fait votre étude en termes de méthodologie dans un centre de cure, Nicolas Palierne, et on se rend compte que c'est beaucoup plus ces hommes qui sont pris en charge. C'est pour ça que dans la précédente émission, je voulais préciser, est-ce que les femmes, c'est beaucoup plus caché ? Donc il y a cette difficulté à être prise en charge aussi derrière. Est-ce qu'au niveau du masculin, est-ce qu'il y a cette hypocrisie dans la dissimulation, est-ce qu'on peut le dire comme
c'est,
ça
c'est ce que je dis avec un peu d'ironie, c'est que les hommes, en tout cas une partie, arriveraient à laisser penser qu'ils ne dissimulent pas. Donc ils arrivent à cacher qu'ils cachent. Et donc c'est souvent là aussi des stéréotypes, quand on aborde les questions notamment des alcoolismes féminins, ça renvoie assez facilement à l'idée que les femmes, elles cachent. Ce qui signifierait que les hommes, eux, ne cacheraient pas. Pour moi, il y a une confusion entre le fait que les femmes puissent consommer seules à leur domicile avec le fait que nécessairement elles dissimuleraient. Pour moi, ça renvoie à deux pratiques assez différentes. Et en contrepartie, ça laisserait penser que les hommes, eux, ne dissimulent pas. Je pense qu'il faut à chaque fois concevoir quel est le rapport à l'alcool qui s'y joue. Et à mon sens, on peut facilement, et c'est ce que font les hommes, ils ont une grande facilité à le faire. Au contraire, ils peuvent dissimuler un rapport problématique dans des consommations qui se veulent socialiser. Et au contraire, ils vont multiplier plein d'occasions de s'alcooliser de manière à multiplier leurs partenaires de consommation au point où justement personne n'est soit en capacité d'évaluer leur consommation globale, alors qu'au contraire, les femmes, elles, peuvent consommer de manière plus solitaire parce qu'elles vont plutôt se protéger du regard porté sur elles, se protéger aussi de certaines formes de violence auxquelles elles pourraient s'exposer en étant alcoolisées, qui ne signifie pas nécessairement cacher leur consommation.
Ça veut dire, dans ce rituel du boire, comme je l'appelle, on peut avoir des femmes qui vont être seules à s'alcooliser chez elles en utilisant le psychotrope alcool, où on va dire que la femme est une grande dépressive, donc elle s'alcoolise toute seule, ou alors il y a une réflexion à avoir sur quelle est la place du bar, par exemple. Il y a des femmes qui vont beaucoup consommer aussi en bar, même si beaucoup, peut-être, chez elles, ce sera chez elles pour se cacher et se protéger, comme vous dites, à bon escient. Et après, de ce que j'appelle les compagnons de boisson, les hommes sont assez forts par rapport à ça, où ça va être une masculinité qui va se montrer dans la cinquième mi-temps. Ça va être facilement aussi dans des bars ou autres. Bon, on en manque beaucoup maintenant dans le Sud-Vienne, nous, mais ça va être un peu, voilà, comme vous dites, il y a quelque chose d'assez ritualisé en passant de compagnon de boisson à compagnon de boisson, où il y a un prétexte de boire, là.
C'est là encore, on va retrouver une asymétrie de genre, c'est qu'on ne retrouve pas forcément, en tout cas au niveau de nos sociétés, des institutions sociales qui seraient à dominante féminine où les alcoolisations seraient importantes. Alors qu'on va retrouver plein d'instances sociales. On peut trouver le milieu du sport, le milieu du travail, le milieu associatif, où les hommes vont être beaucoup plus dominants et vont avoir des espaces où ils vont pouvoir s'alcooliser, voire se suralcooliser dans ces espaces-là. On ne retrouve pas d'équivalence féminine dans ces rapports-là.
Est-ce que ça veut dire que l'homme, comme on le retrouve beaucoup dans cette asymétrie, comme vous dites, de genre, est-ce que c'est parce que l'homme est beaucoup plus dans les espace public.
Alors, il occupe encore majoritairement l'espace public, il occupe des statuts beaucoup plus liés au pouvoir par rapport à ça. Donc, effectivement, il peut y avoir cette répartition-là, et effectivement, ça renvoie là encore à ce qu'on disait sur les femmes cash. Non, des fois, les femmes, elles boivent à leur maison, parce qu'elles sont dans leur maison, et que finalement, ça peut être encore une place pour elles, et donc, c'est pas nécessairement qu'elles ont une intention vicieuse de dissimuler, non, c'est qu'elles boivent là où elles sont.
Est-ce qu'on peut dire dans la répartition, comme vous l'appelez, la femme garante, c'est intéressant de le voir, qu'on peut rencontrer aussi en milieu, vous dites, dans les milieux dits populaires, et peut-être aussi à pas forcément exclusivement au milieu rural. C'est quoi cette femme garante ?
Pas sûr que ça touche uniquement les rapports, en tout cas les groupes populaires ou ruraux. C'est-à-dire que ça déborde le simple rapport à l'alcool, c'est que les femmes, on attend encore d'elles qu'elles soient un petit peu la garante de la santé de leurs proches. Ça renvoie toujours un petit peu à la figure maternelle, mais on attend ce rapport-là. Et donc, on attend encore des femmes d'être les garantes, y compris par rapport aux alcoolisations de leurs hommes, si on peut dire, de leurs fils, de leurs frères, de leurs maris, parfois de leurs pères. Et donc, on va attendre d'elles qu'elles s'occupent, y compris lorsque ces hommes peuvent être malades de l'alcool. Et parfois, on peut retrouver ça, et historiquement, ça fonctionne aussi, on peut retrouver des fois qu'elles peuvent être jugées comme responsables, voire coupables de l'alcoolisation des hommes, parce qu'elles n'ont pas su les préserver, ou elles n'ont pas su les conduire vers le soin, et elles peuvent être jugées, effectivement, de ce côté-là aussi.
On va faire une pause musicale. J'ai choisi « Et je bois », une chanson de Yves Jamais. On écoute.
La petite clope qui tue le spleen vient de me réveiller un air. Quelques accords que j'assassine, sur lesquels je pose mes vers. Sans les casser, je les entasse dans des octosyllabes morts, en attendant que je trépasse d'en avoir apprécié le corps. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Je dis là que je me ratatine, je vois mon avenir en vain. Toutes mes émotions s'avident, mes vers en deviennent divins. Sur mes mots je pose mon prose et propose un deal à la lune. Que Pierrot nous lâche les choses et qu'il veuille nous laisser sa plume. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. La première fois que je t'ai vu, je devais avoir la gueule dans le cul. Pour m'être laissé racitante, fallait-il que je sois bourré? Fallait-il que tu me blesses? Je ne veux pas y penser. Fallait-il que tu me baisses si bien que je suis resté? Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Le cœur et le corps abâchis, me voilà donc sans toi chez nous. Dans des relents de Givenchy, j'écris des trucs sur le dégoût. Ce soir, si ma muse est brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu, souvenir d'un oubli. Et ce soir, si ma muse est brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu.
Au niveau de la dissimulation, Nicolas Palerne, en tant que sociologue, on parlait au niveau du masculin, cette banalisation, de cette appropriation de l'espace public au niveau du masculin. Est-ce qu'on peut dire justement, on parlait de la dissimulation, est-ce qu'il n'y a pas une compensation chez les hommes au niveau de la place de l'alcool par rapport au féminin ? Et encore là, on a pu parler la semaine dernière au niveau du féminin de l'alcool, et là en parlant du masculin, on le recompare encore au féminin.
Bah, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une consommation qui peut être importante, qui prend de plus en plus de place dans la vie de ces personnes-là, ça va être à mon sens plus problématisé du côté des femmes, parce que il n'est pas normal qu'une femme consomme autant, alors qu'on va encore avoir des processus de normalisation, de banalisation plus faciles chez les hommes, où on peut encore avoir ces images de bon vivant, on peut encore avoir des images où ils vont occuper une place et une figure masculine assez drôle. Et là encore, il y a beaucoup moins d'équivalence du côté des femmes. Une femme qui a des ivresses ou une agression importante va être jugée beaucoup moins drôle. Au contraire, elle va plutôt susciter du pathologique, un regard plutôt compatissant ou extrêmement sévère et jugeant, alors que les hommes, eux, peuvent encore occuper ces figures un peu bouffonnes par rapport à leur consommation d'alcool.
Et quand on disait déjà dans la précédente émission au niveau d'un rapport de classe, est-ce qu'un rapport de classe différent au niveau du masculin par rapport aux consommations, est-ce qu'il y a des variations ?
Alors effectivement, je l'avais dit dans l'émission précédente, où plus le niveau de diplôme augmente chez les femmes et plus elles ont tendance à déclarer des consommations d'alcool, on va avoir le mouvement plutôt inverse du côté des hommes. Plus les hommes sont diplômés et plus ils tendent plutôt à déclarer moins d'ivresse et moins d'alcoolisation.
Et ça, vous l'expliquez comment ?
Parce qu'on va avoir des masculinités dans les milieux supérieurs qui ne vont pas forcément être les mêmes masculinités que dans des milieux plus populaires. Et donc, on va plutôt avoir une sorte de masculinité maîtrisée, où il s'agit de se contrôler, et on va avoir un rapport au corps qui va différer par rapport aux classes, je pense au cadre par exemple, on va avoir des formes de masculinité qui vont différer dans ce registre-là. Donc on va plutôt être sur le contrôle de soi qui ne va pas forcément s'exprimer de la même manière que chez les hommes ouvriers ou employés.
Donc ça veut dire qu'on va prendre un cadre urbain, il va moins consommer ou consommer différemment, il va être beaucoup plus dans le contrôle de ses consommations, donc il va être moins gros consommateur qu'un ouvrier.
Je parle en moyenne, hein, oui. Ça n'exclut pas que certains cadres puissent surconsommer ou que certains groupes de cadres, je pense par exemple à des apéros after work, peuvent au contraire valoriser. Donc globalement, même les hommes cadres boivent quand même plus que les femmes, mais si on prend le rapport, les écarts de classe chez les hommes, on va quand même retrouver moins de déclarations chez les hommes cadres que chez les hommes ouvriers.
Est-ce que
l'on
peut retrouver une dissimulation aussi, à votre avis ?
Pour les hommes qui seraient en difficulté avec l'alcool ou qui s'engagent sur des dépendances ?
Le fait qu'il y ait moins de déclarations de consommation, est-ce que c'est suspect ou non ?
C'est pas forcément, je pense pas, parce que ça va se retrouver quand même globalement sur les différents indicateurs. Je pense que c'est le rapport à l'alcool qui va différer. D'accord. On va vraiment être plutôt sur un rapport qu'on pourrait dire un rapport bourgeois à l'alcool, c'est-à-dire qu'on va plutôt se montrer connaisseur de vin, connaisseur de whisky, et donc qui vont pas forcément...
Un hédoniste, ça va être... Voilà.
Oui, qu'on va présenter comme une forme d'hédoniste, mais surtout, voilà, où ça va être la maîtrise, à la fois la maîtrise de soi, va aussi s'exprimer sur la maîtrise des produits. On va connaître leur provenance, on va connaître leur qualité, qui va aussi s'exprimer dans un rapport économique. On va être en capacité de s'acheter des bouteilles qui valent tant.
Ou le cubi, on a parlé du cubi l'autre jour.
Oui, qui va être peut-être plus populaire parce que c'est plus accessible, plus bon marché. Ouais. Mais en tout cas, on va exprimer des formes de masculinité et aussi des formes de pouvoir, plutôt par rapport à ces biais-là, qui ne vont pas forcément attendre, en tout cas pour des hommes adultes, pour trouver comme chez des hommes diplômés plus jeunes un rapport plus lié à l'ivresse, mais qui ne va pas nécessairement s'exprimer par une masculinité qui appellerait à une ivresse lourde ou nécessairement à l'idée de boire plus que les autres. On va plutôt retrouver des masculinités qui vont être plutôt sous la forme de la maîtrise, comme je le disais, par rapport à l'alcool et par rapport aux produits.
Je trouvais important aussi, d'aborder la violence de genre. Je pense que c'est vraiment d'actualité. Enfin, on a pu faire focus ces dernières années sur cette problématique à l'égard du féminicide. Hein. On sait que le terme n'est pas juridique, mais sociologiquement, il est vraiment existant. Et à votre avis, au niveau de cette violence de genre, qui peut être consécutive ou non au niveau du produit alcool, vous en pensez quoi en tant que sociologue, Nicolas?
Alors, il y a beaucoup de débats, ils sont très récents aujourd'hui par rapport aux violences de genre et par rapport à l'alcool. Moi, ce qui me dérange d'un certain côté, c'est qu'il faut rappeler quand même que la majorité de ces violences se font hors alcool. Donc, il ne faut pas en fait dégenrer cette question-là où l'alcool serait le responsable de ces violences. Non, je pense que ça renvoie à des logiques de genre qui débordent largement les questions d'alcool. Par contre, il y a quand même une spécificité dans les violences de genre qui s'inscrivent dans des contextes où les personnes sont alcoolisées. Je crois que ça peut favoriser, en tout cas, ça aggrave le type de violence. Ça a plutôt tendance à un petit peu à catalyser la gravité des violences lorsque l'alcool est présent. Il y a un passage à l'acte qui peut être plus facile. Et là encore, il ne s'agit pas d'excuser le comportement au regard du problème alcool. Et je pense qu'il faut aussi questionner la place des hommes et la place de leur construction, de leur masculinité, à la fois dans le rapport à la violence, à la fois dans le rapport à l'alcool, et pas seulement mettre en garde les femmes dans la prise de risque, s'il s'agisse des violences, je pense notamment aux violences sexuelles. Il ne s'agit pas seulement de mettre en garde les jeunes filles de boire moins parce qu'elles s'exposent à des violences sexuelles. Il s'agit aussi de responsabiliser les hommes, les jeunes hommes, dans leur rôle où ils peuvent aussi plus facilement passer à l'acte dans des comportements violents lorsqu'ils ont bu.
Mais c'est un peu ce que vous me disiez au niveau des accidents de la route avec alcool. On va dire que c'est pratiquement la faute de la route que la faute du conducteur.
Moi, ce qui m'importe, en tout cas dans ma perspective sociologique, c'est de réinscrire la question des masculinités dans le rapport à l'alcool et avec l'ensemble des comportements associés, les multiples prises de... les comportements violents, la consommation sur la route, et pas seulement de réduire cette question-là à l'alcool.
Mais c'est là qu'on se rend compte aussi au niveau même des jeunes, au niveau des conduites à risque que les jeunes peuvent avoir, ou même au niveau de alcool, cannabis et volant. On se rend compte que ça soit même l'entrée, par exemple, en délinquance, on va parler des jeunes, la dernière émission, on se rend compte qu'il y a quand même cette mise en danger que le masculin peut avoir, que le féminin aura moins.
Oui, il y a les comportements associés aux simples consommations vont différer selon que l'on soit un homme, selon qu'on cultive certaines formes de masculinité ou qu'on soit une femme et qu'on ait certains types de féminité. Effectivement, il y a davantage de prise de risque du côté des hommes parce que les manières de construire leur masculinité vont davantage les inviter à se mettre en avant, à occuper la scène ou à dénier justement le risque en lui-même, alors que les femmes, globalement, je tire à grands traits, vont être entre guillemets plus sages sur certains comportements, notamment l'alcool au volant, les différentes formes de violence. Et donc, il faut à chaque fois spécifier quelles sont finalement les prises de risque entre les hommes et les femmes.
Merci Nicolas Palière.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. L'instant addicto.